Vous écoutez France Culture.
On entre ici dans un autre monde. La Securitat y est toujours embusquée.
Saint-Pétersbourg sous contrôle.
Cet ascenseur descend jusqu'à la pièce la plus secrète.
Sous contrôle.
La chambre.
Mais en voyant les images qui vont suivre, on comprend mieux.
Un jour d'automne, je loue une chambre dans un appartement communautaire de la 8e Sovietskaya.
Bucarest, Saint-Pétersbourg sous contrôle.
Eh bien, on sera communautaire ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Vietnam, d'espions, de Roumanie, de Communalka, de Michel Léris, de poésie décadente et même de Christian Lacroix. Avec Françoise Huguier qui signe au doigt et à l'œil autoportrait d'une photographe, figure emblématique d'un photojournalisme éclectique au programme isolement, lieu clos et la mode façon documentaire, Benoît Lagan.
Et dans son autoportrait littéraire, Françoise Huguier, passée par Libération Rock and Folk, revient sur un parcours photographique, celui d'une cinéphile marquée intimement par l'histoire de la décolonisation.
On poursuivra avec Patrick Maguinès qui publie Les 100 derniers jours, un premier roman de genre espionnage en Roumanie pour un spécialiste de la poésie symboliste, Lucille Comeau.
Portrait d'un professeur qui travaille sur la poésie symboliste et décadente et qui pratique aujourd'hui en écrivain une esthétique de la pourriture.
La session à barbe ce soir, mais pas vraiment en fait, avec Emmanuel Tuny, une programmation, Mathieu Conquet.
Ce sera surtout une session lettrée hein, avec l'écrivain, philosophe et diplomate qui publie son sixième album, Les Variétés. Il jouera l'appartenance en direct.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui s'intéresse ce soir à Nollywood et puis on retrouvera Benoît Lagan pour les brèves. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
À Lagos, des personnalités du cinéma de Nollywood se sont invitées dans une marche de soutien aux écolières enlevées le week-end dernier au Nigeria. Des acteurs stars qui demandent aux militaires d'intensifier leurs actions contre le groupe Boko Haram, car Nollywood part aussi en guerre contre le terrorisme nigérian.
Et en tout cas, voilà bien Nollywood, vous savez, cette immense industrie du cinéma nigérien qui a pris des positions assez claires lors de cette marche de la liberté. Positions claires notamment de la part des actrices qui recommande ainsi à la population, je cite, de ne pas rester inactif face à la tyrannie ou bien encore à l'armée de changer de tactique. Alors c'est un engagement nouveau sans doute de Nollywood alors que l'industrie du cinéma, la production, elle, se lance encore timidement dans le sujet du terrorisme. En fait, le premier et le seul film régional véritablement sur le groupe Boko Haram l'été dernier, ce film est ghanéen. C'est un film au scénario assez classique. Hein. Un terroriste trouve l'amour et cherche la rédemption avec une prostituée. Mais un film qui a dû changer de titre quand même pour passer du Ghana au Nigeria. De Boko Haram, on l'a transformé en une nation assiégée, beaucoup plus allusif. Écoutez, son scénariste et réalisateur, Pascal Amanfo, lui, il n'a pas attendu le kidnapping pour penser à la situation.
Quand j'ai proposé ce film au Nigeria, tout le monde me disait « Non, ne le fais pas, c'est un sujet trop sensible ». Alors autant vous dire que ça n'a pas été facile, j'ai dû le financer tout seul, plusieurs acteurs ont eu peur, ils ont refusé. Et moi, si je joue le premier rôle, ce n'est pas parce que je le voulais, mais simplement parce que je n'ai pu trouver personne. Ensuite, j'ai dû retourner au Ghana pour filmer des scènes où les terroristes attaquaient des villages et tuaient des gens, parce qu'au Nigeria, personne n'a voulu m'aider, pas de sécurité policière, pas d'armes, pas de munitions, rien. On m'a déconseillé de le faire, et on avait raison, parce qu'aujourd'hui, après 2 ans, la censure du Nigeria n'autorise toujours pas la sortie en DVD. Je n'ai rien gagné, on m'accuse d'être parti en croisade contre les musulmans, et moi je ne comprends pas vraiment cette hypocrisie. Alors peut-être que j'aurais dû filmer autre chose, mais je ne regrette rien, et je continuerai de parler de cette situation tant qu'il le faudra.
Une situation difficile, et pourtant le gouvernement nigérian avait voulu utiliser Nollywood comme une arme antiterroriste.
Oui, c'était l'année dernière encore, le ministre des Affaires policières avait reçu une délégation d'acteurs et d'actrices et il avait été question d'une production spéciale destinée à sensibiliser le public. Alors aujourd'hui, le projet n'apparaît plus nulle part. Il reste donc le soutien médiatique dans cette marche et une dizaine de films de grande consommation où le terrorisme ne joue que le rôle d'accessoire. Et pourtant, le cinéma nigérien commence effectivement à s'emparer du sujet du terrorisme. Il faut le voir dans le détail. Pascal Amanfo tournera la suite de Boko Haram. Il cite également un autre réalisateur au Nigeria qui s'oriente lui vers un documentaire. Quant au réalisateur Udoka Oyeka qui est à Cannes en ce moment, lui il prépare une série de courts-métrages sur le sujet. Alors trop délicat au Nigeria le problème de Boko Haram. Écoutez l'avis du producteur Zakorji, c'est lui qui disait il y a quelques semaines sur cette antenne vouloir justement conquérir l'international avec de nouveaux sujets.
Depuis le début, le cinéma de Nollywood traite des sujets qui touchent à la vie réelle des gens, notre culture, nos traditions. C'est cela que nous montrons. Et la menace du terrorisme en fait maintenant partie. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a déjà des réalisateurs qui pensent à en faire un film qui reflète cette position de Nollywood par rapport à un acte méprisable et criminel. Moi aussi, je suis prêt, mais à condition que j'aie les financements. Parce qu'un film de ce genre implique beaucoup de scènes d'action et de matériel, des munitions, ce genre de choses. Alors il se peut que certains prennent le risque de tourner ici, au Nigeria. D'autres préféreront aller ailleurs. Mais c'est possible de réaliser un tel film. Ça prendra plus d'argent et de temps que d'habitude. Mais au moins, on aura fait ce qu'on fait toujours. On témoigne de l'histoire de notre peuple.
Et d'ailleurs, même l'ancienne génération de Nollywood s'y intéresse. L'acteur qu'on appelle légendaire sur place, Victor Edogun, vient de publier, lui, une série de nouvelles sous le titre « Save Today », sauver aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains à Nollywood ont été directement touchés par Boko Haram. En 2011, c'est une actrice, Marie Rémy, qui avait perdu une sœur dans un attentat.
Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités à propos de ces informations ?
Ça prouve une chose, c'est que Gérard Depardieu, ça prouve que Gérard Depardieu, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas toujours libre.
C'est-à-dire, il va falloir préciser la pensée, car elle est assez elliptique.
Ben, il aurait été très bien dans ce rôle, me semble-t-il. Je m'étonne qu'on ne lui ait pas proposé.
Dans le rôle d'un terroriste,
il ne peut, importe, pas, tout, ça il ne peut pas tout faire.
François Duguier. Ce que je voulais dire, c'est que ce cinéma, parce que le cinéma africain, on a été très habitué à voir le cinéma du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, peu du Ghana et de la Guinée-Bissau, parce qu'il y avait un très très bon réalisateur. Et là, avec moi, quand je vais en Afrique, effectivement, je vois des séries de Nollywood, c'est-à-dire faites au Nigeria. Et là, c'est une entrée en puissance. Et je pense qu'on va être étonné. C'est Edouard Weintraub qui disait ça l'autre jour, que j'ai entendu dans une radio. Et qu'effectivement, je pense qu'on va être étonné parce que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe au Nigeria, comme en littérature, ce qui s'est passé avant, qui se passe au Nigeria à propos du cinéma.
Patrick McGuinness, vous qui êtes anglais, Nollywood, ça vous dit quelque chose ?
Eh bien,
plus que nous, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il y a une chaîne que je reçois à la télévision anglaise qui s'appelle en fait Nollywood. Et on peut voir n'importe quand, à n'importe quelle heure, une série quelconque nigérienne. Et ça a l'air très intéressant. De temps en temps, il y a des films qui sont très, très prenants, mais c'est surtout des versions... Qu'on voit chez nous, des versions un peu comme Dallas et Dynasty, mais à la nigérienne. Mais c'est pas. D'ailleurs, c'est mieux que de voir Dallas et Dynasty en l'original.
Qui sont déjà des chefs-d'œuvre, tant que vous imaginez.
Exact, voilà.
Tout de suite, les brèves avec Benoît Lagan.
Et pour ouvrir ces brèves, Laurent, tension entre Moscou et Washington autour d'un retour de prêt compliqué de livres sacrés. En effet, une cour d'arbitrage de Moscou a refusé aujourd'hui de rendre aux États-Unis une collection de livres sacrés juifs réclamée par Washington. La cour de Moscou estime même que c'était au contraire aux Américains de retourner à la Russie sept autres livres du même ensemble qui est en possession de la bibliothèque du Congrès à Washington. Les sept livres réclamés par Moscou avaient été prêtés temporairement en 1994 à la communauté new-yorkaise hassidique Abad Lubavitch, mais cette dernière avait refusé de les rendre.
Radio France, Mathieu Gallet poursuit ses nominations.
Oui, nous avons appris ce matin pas moins de 4 nominations. Claude Esclatine, ex-directeur adjoint de France Télévisions, prend la tête du réseau France Bleu. La franco-québécoise Anne Sérode, responsable des programmes de France Bleu Roussillon et ancienne de Radio-Canada, arrive à la tête de FIP. Bruno Laforestry, qui a participé notamment au lancement de la radio hip-hop Génération, entre au MOVE. Et à France Inter, c'est Laurence Bloch, qui était jusqu'alors adjointe du directeur de la chaîne, qui prend la direction de France Inter. Nouvelle étape pour celle qui fut notamment productrice et directrice adjointe de France Culture dans les années 90 et 2000.
Et rien pour Georgette Lemaire ?
Non, rien du tout. Ni Gérard Depardieu. Vous avez un casting très élargi, Emmanuel Tony. Pendant ce temps-là, à rue 89.
Eh bien, c'est notre confrère Xavier Delaporte, producteur de l'émission Place de la Toile et chroniqueur dans la séquence Ce qui nous arrive.
Aux côtés de Mathieu Conquet.
Voilà, dans la matinale de France Culture, qui vient d'être nommé rédacteur en chef au site d'information en ligne rue 89. C'est Pascal Richer, directeur de la rédaction du site d'information, qui l'a annoncé aujourd'hui à l'AFP.
Et donc, pas de retour pour Jean Lefebvre. Pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire lexicale. Au moment où les équipes du Petit Robert, vous avez dû entendre ça depuis ce matin, annoncent les nouveaux mots entrants pour leur édition 2015, et à cette occasion, l'AFP nous fait découvrir un métier méconnu de la culture. Je vous raconte. Tout commence à l'occasion.
J'ai l'impression que les mots du dictionnaire vous restent tous dans la gorge.
Oui, j'ai essayé de me les mettre en bouche toute l'après-midi. Et
souvent, souvent, le petit Robert reste dans la gorge.
Exactement. On y va.
Tout commence quant à l'occasion de l'apparition du nouveau petit Robert. L'AFP met en avant dans ses dépêches Édouard Trouillet, 36 ans, qui est lexicographe. Son métier au petit Robert, mettre la langue française sur écoute. Alors, tendre l'oreille dans la rue, dans les médias, jeter un œil sur Internet ou dans les livres contemporains. Le but, dénicher les nouveaux mots les plus usités, ceux qui, au fil des mois et des années, finissent par s'immiscer durablement dans notre langue. Mais attention, pas question pour le lexicographe d'imposer des mots un peu trop capillotracté. Tenez, capillotracté, adjectif qui vient d'entrer dans le dictionnaire du latin capillus, cheveux et tracté, amené d'une manière forcée et peu logique.
Et comment ce lexicographe procède-t-il pour émietter le dico ?
Oui, émietter. Émietté, qui vient aussi de rentrer dans le petit Robert pour signifier rendre meilleur, changer en mieux.
J'ai jamais entendu.
Eh bien voilà, Édouard Trouillet n'est pas un bolos non plus. Tenez, bolos, qui vient d'entrer dans le dictionnaire argot des banlieues pour dire client d'un dealer, mais qui signifie aujourd'hui dans le langage des jeunes imbécile, naïf.
Le langage des jeunes, j'ai l'impression qu'on parlait comme ça dans les années 60.
C'est écrit comme ça dans le dictionnaire. Eh bien, le lexicographe est, dit-il, en veille permanente tout au long de l'année aux aguets de la modernité de la langue, de l'apparition de mots ou expressions de nos sources, et nos sources sont très éclectique. Je suis toujours à l'affût des mots qui se répandent et ont une chance de durer. Moralité, attention, ça va être dur. Afin d'émietter l'édition 2015 de ce dictionnaire sans imposer des mots capillotractés, Édouard Trouillet, qui n'est pas un bolos, pas question donc pour lui de procrastiner.
Qui vient d'entrer dans le dictionnaire.
Ouais, le verbe. Pas procrastination, qui était déjà, mais bien de taffer, qui n'a rien à voir avec vapoter. Tenez, des mots qui viennent aussi de rentrer dans le dictionnaire. N'est-ce pas, Maître Capello?
Évidemment, c'est amusant ce qu'il dit là.
Ah ?
Oui, que voulez-vous que je dise ?
Il me manque, j'ai envie de chialer.
Il aurait été meilleur que moi sur cette histoire.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part, bien sûr, avant Emmanuel Dunic et à vous surtout ?
Un sacré Moscou sodomite, hein, Maître Capello.
C'est vrai ?
Ah oui.
Très bien. Une expérience personnelle ?
Ça me fait du bien de voir que les Français aussi souffrent de cette montée, de cette espèce de jargon business. Émietter, c'est parfait, j'aime beaucoup ça. Et j'aime surtout l'idée que vous, en France, vous allez devoir avoir ce mot dans votre langage quotidien. Parce que nous, on a des choses comme ça depuis des années.
Par exemple ?
Oh, il y en a trop, je ne sais même pas...
Quoi choisir ?
Je ne sais même pas quoi choisir, non. Oh non, on a des phrases comme « leading from the front », « mener par devant », comme si il y avait une autre façon de mener. « Leading from the front », on adore ça. On appelle ça le « management speak » en Angleterre. Et c'est en train de détruire la langue quotidienne, mais aussi, on trouve ça surtout maintenant dans les universités, qui pour moi devraient être des bastions contre ce genre de langage. Alors pour moi, voir les Français accouchant du mot « émietter », ça me fait du bien.
Est-ce qu'un chirurgien esthétique peut émietter une miche ? Est-ce qu'on le sait, ça ?
Signé Emmanuel Tunic. J'ai l'impression que c'est Radio Londres. C'est les Français parlent ton français pour Emmanuel.
Le rendez-vous.
Ah, c'est vous qui l'avez mis dans votre texte, hein, Françoise Huguier, on n'a rien inventé. Plateau 24/36 avec vous, Françoise Huguier, photographe, grande figure du photojournalisme pour Libération, pour Vogue ou encore Rock'n'Folk. Vous avez parcouru le monde entier, de l'Afrique à la Sibérie en passant par l'Asie, avec une photographie qui explore tous les domaines, les love hotels japonais, les défilés de mode de Christian Lacroix entre autres, sur les traces de l'Afrique fantôme de Michel Léris qui a donné un album absolument magnifique, des appartements communautaires à Saint-Pétersbourg, et vous publiez aujourd'hui, au doigt et à l'œil, autoportrait d'une photographe aux éditions Sabine Vespizer. Et le 4 juin prochain, ce sera une exposition monographique à la Maison européenne de la photographie à Paris. Alors, on vient d'ouvrir le plateau sur ce tube d'Alain Barrière, Ma vie, que vous évoquez hein, dans votre livre, la chanson de votre libération sexuelle. On aurait pu ouvrir par autre chose, mais on a ouvert par ça.
Oui, mais vous avez raison. Et quand je prenais mes vacances en Bretagne, elle existe toujours, il y a une boîte de nuit qui s'appelle La Chaumière. Et donc, à l'époque, effectivement, maintenant, on danse beaucoup moins de slow. Mais à l'époque, on dansait slow. C'était une manière aussi de conquérir ou de chasser quelqu'un. C'était le début, effectivement, de l'éducation sexuelle.
Alors, vous organisez le récit en 10 chapitres de votre enfance au Cambodge en 1950, à votre voyage au Mali en 2012. Et à ce propos, vous racontez qu'en 2012, vous souhaitiez faire un reportage dans le Nord Mali et que tout le monde vous a refusé, c'est-à-dire Paris Match, Le Figaro, Libération. Alors même que le Mali va être au centre de l'actualité internationale quelques mois plus tard. En quoi ce refus vous paraît-il révélateur de l'évolution de la presse et du photojournalisme, François?
Parce que maintenant, la presse est consensuelle. Et la presse ne veut pas prendre de risques. Moi, j'ai proposé sur... Parce que comme je connais bien le Mali, j'ai proposé sur l'armée malienne. Quand on voit dans quel état... Moi, je sais très bien... Parce que j'avais une maison à Ségou, il y avait un camp militaire. Je sais très bien dans quel état elle était. Et j'avais la possibilité, parce que je connais pas mal de gens, j'avais la possibilité de faire un reportage justement sur l'armée malienne. Donc, quand j'ai proposé ça aux journaux, je ne vais pas les citer, ils m'ont dit... Comment ?
C'est moi qui l'ai fait.
Ah bon, d'accord. Et bien, ils m'ont dit, oh ben non, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est l'armée française ou l'armée tchadienne. Et ça, c'est terrible, parce que, de nouveau, on a encore je crois qu'il y a un reportage qui est sorti encore sur l'armée française, ben, en Centrafrique, voilà. Et je pense que on est confronté à ça maintenant. C'est-à-dire que, je cite un autre exemple. J'ai travaillé en Indonésie, à Bandung, sur le hijab. C'est une mode. C'est une mode depuis l'Iran et depuis le 11 septembre. Donc c'est une mode, il y a des défilés de mode, etc. Il y a des stylistes, etc. Je l'ai présenté à plusieurs journaux ici. Il n'y a rien à faire. Tout le monde a la trouille. Tout le monde a peur. Donc, et par contre, j'étais à Istanbul, il y a un grand quotidien qui s'appelle Zaman, et bien eux, ils me l'achètent. Et pourtant, on sait qu'en Turquie, il y a un gros problème par rapport au voile, justement. Et donc, il y a une espèce de peur, comme ça, de consensuelle de tous les magazines et de tous les journaux. Il n'y a rien à faire, on est bridés maintenant, on est bridés. Donc, on a beau avoir des idées. Et puis, il y avait une autre chose, c'est qu'avant, moi, quand j'arrivais dans une rédaction, au moins pour les magazines, il y avait un sommaire. Maintenant, j'en vois plus. Et le sommaire, c'est-à-dire que moi, soit je m'adaptais, soit je pensais, ça me faisait gamberger. Là, maintenant, j'en vois plus. Donc... c'est dommage, je trouve ça extrêmement triste. Et puis mes collègues aussi. Quoi.
Patrick Maguinet, je vous ai vu prendre des notes pendant que François Duguier parlait. Est-ce que c'est en relation avec ce qui était raconté ?
Ça ne m'étonne pas de voir qu'ici aussi, les journaux sont cette espèce de consensus qui empêche la curiosité, en fait. Parce qu'à partir du moment où on sait à l'avance qu'on veut savoir, on finit par ne pas savoir grand-chose, je suppose.
Benoît Lagan.
Alors, Françoise Huguier, vous ouvrez sur un épisode difficile de votre enfance. Dans ce livre, vous avez 8 ans, vous vivez au Vietnam, votre père est directeur d'une plantation de caoutchouc. C'est le début de la guerre d'Indochine et vous êtes, vous et votre frère, enlevés par les Viet Minh pendant 8 mois dans la jungle. Vous êtes revenu sur les traces de cet enlèvement, c'était il y a 10 ans, à travers une série de photographies, c'était présenté notamment aux Rencontres d'Arles. Est-ce que ce travail photographique vous a permis de reprendre la parole sur cette histoire ?
D'abord, cette histoire, je le dis dans le livre, je l'ai occultée, puisque quand je suis arrivée, je suis revenue du Cambodge, on m'a mis en pension, une pension très chic. Et moi, je disais, parce que toutes les autres petites filles, elles jouaient à la poupée, enfin bon, bref. Et moi, effectivement, moi, j'ai eu cette aventure-là, alors elle me traitait de menteuse, parce qu'elle ne le croyait pas du tout, vous imaginez. Et donc, à un moment, il y a une des religieuses qui m'a dit « Si vous continuez, vous allez faire que ça dans votre vie, raconter votre histoire. »
Sœur Bernadette.
Voilà.
Au couvent des oiseaux.
Au couvent des oiseaux. Donc, du coup, silence. Et la première personne à qui j'en ai reparlé, c'est à Serge Danet, à Libération. Et Serge m'a dit « J'aimerais bien retourner au Cambodge avec toi. » Malheureusement, Serge n'est plus là. Et donc, du coup... j'ai décidé d'y retourner. J'y suis retournée parce que j'avais des amis d'enfance qui m'ont dit « Tu sais, la piscine où vous avez été attaquée, elle existe toujours. » J'ai dit « C'est pas vrai. » Et là, effectivement, elle existe toujours, elle y est encore. Et là, du coup, j'y suis retournée. Et j'y suis retournée, mais je dis toujours en apnée parce que franchement, je savais pas comment faire. Vous savez, quand vous retournez, c'est pas forcément cette histoire, mais quand vous retournez sur vos pas comme ça... Vous dites, alors qu'est-ce que je vais faire en photo hein ? En texte, ça va, mais en photo, c'est très difficile en photo. Donc, par exemple, dans le livre, j'avais 8 ans, dans la pagode où j'ai été libérée, là, de Vielmoulou. Donc, il y avait des gens, d'abord, j'étais très étonnée, j'ai retrouvé des photos de mes parents sur les murs. Bon. Alors ça, j'étais extrêmement étonnée. Et puis surtout, il y avait des gens qui m'ont connue, petite fille. sans je raconte mon histoire, elles m'ont dit « Ah, mais vous n'êtes pas la petite fille. » Je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi, ils ne savaient pas du tout. Et il y avait encore le chef du village et tout. Et en photo, le seul moyen que j'avais, c'était de faire une pellicule noir et blanc, une pellicule couleur de la même personne. Et c'est le seul livre d'ailleurs que j'ai fait en noir et blanc en couleur. Et c'était le seul moyen. Je me suis dit, comment je vais les retenir, ces gens qui m'ont connu? Et c'était le seul moyen en photo, c'est de faire du noir et blanc et de la couleur.
Quelle a été la première photo que vous ayez faite justement là-bas?
De...
À ce retour.
À ce retour, la piscine. Direct. Direct la piscine, oui.
Vous parlez de Serge Danet, parce que vous allez travailler avec lui à Libération. Et vous revenez d'ailleurs dans le livre sur une expérience que vous menez avec lui au Japon. Quels échanges sur le cinéma vous avez eu ensemble avec Serge Danet? Parce que le cinéma aurait été très important dans votre propre formation, François Huguier.
Serge était formidable, parce qu'il n'y avait pas besoin de parler, parce qu'il vous racontait le cinéaste, le film à sa manière, la critique et le cinéaste. Et en plus, il avait rencontré énormément de cinéastes. Et donc, il est. Moi, je me souviens à Venise. Je me souviens d'un festival à Venise où, évidemment, il connaissait tous les gens de la Nouvelle Vague, puisqu'il avait été rédacteur en chef en plus des Cahiers du cinéma. Et pour lui, c'était normal. Moi, alors, par exemple, Godard, j'avais vu tous ses films en tant qu'étudiante. Je me disais, oh là là, je vais rencontrer Godard. René, pareil. Mais Serge, pour Serge, c'était, on va dire, des copains, mais c'était des amis. Il connaissait tout sur eux. Donc, moi, il m'a fait rentrer dans ce, on va dire, dans le quotidien de tous ces réalisateurs. C'est lui qui m'a fait connaître Claire Denis, avec qui j'ai travaillé après.
Parce que vous serez photographe de plateau pour Claire Denis, notamment sur Trouble Every Day.
Exactement. Ouais. Et puis Souleymane Cissé, puisqu'on parle du Mali. Et Souleymane Cissé, c'est grâce à Serge que j'ai connu.
Vous avez photographié Serge Danet alors qu'il était à la recherche de la tombe de Mizoguchi. Comment vous l'avez photographié dans ce cadre-là?
C'est-à-dire... Alors, quand on est arrivé à Osaka, Serge disait « c'est formidable, c'est une sublime mocheté ». J'adorais ces expressions. Et alors, on faisait un exercice tous les deux. Lui, il dessinait, ce qu'on sait peu. Donc, il avait des petits carnets, il dessinait. Donc, on se mettait dans une rue. Et dans la rue, il y avait une copie de fort de Châteaufort, une autre copie de palais de Venise, une autre, un crabe qui agitait ses pattes. Et donc, Serge faisait des dessins et moi, je faisais des photos. Et on discutait ensemble sur ces sublimes mochetés. Et un jour, on va à un karaoké. Et on rencontre, bon, nous on parlait français bien sûr, et tout d'un coup il y a un garçon qui vient vers nous et qui nous dit, voilà, moi je suis français, je suis de Bretagne, bon, et je vous présente ma compagne qui est japonaise, et nous faisons un travail sur les objets de Mizoguchi. C'est vraiment le hasard, c'est génial quoi. Donc Serge, évidemment, comme c'était son réalisateur préféré, il était absolument enchanté. Et donc, du coup, il m'a dit, il faut qu'on aille Alors, ils lui ont dit, il y a la tombe de Mizoguchi, c'est à tel endroit. Donc, on a fait tous les jardins zen de Kyoto pour retrouver la tombe. Et là, alors, la fin de l'histoire, c'est que j'avais prêté le négatif au cahier du cinéma, ils me l'ont perdu.
Françoise Huguier, le passage à la photographie, ça se fait pour vous au milieu des années 60, quand vous rencontrez votre compagnon Patrice Huguier, qui photographiait l'architecture, et vous évoquez dans votre récit un voyage en Croatie, un voyage initiatique. Si aujourd'hui je ne pars jamais sans un but photographique, écrivez-vous, le périple en Croatie en a sans doute été le déclencheur. À quel niveau?
Mon mari était très féru d'architecture, donc il aimait ça. Donc lui, il savait que en l'ex-Yougoslavie, il y avait les Bogomils. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, c'est les pré-Qatars. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et effectivement, on est allé à la recherche de tous ces sites Bogomils. Et moi, j'ai commencé à faire toutes les stèles, etc. Donc c'est le début, c'est-à-dire que c'est une petite collection, quoi. C'est le début d'un reportage, quoi. C'est-à-dire que je pars et je travaille sur quelque chose.
Comment vous êtes formé vous-même à la photographie, François Huguier?
J'ai pas fait d'école. Hein.
Non, je sais, oui.
j'ai passé les deux bacs, parce qu'à l'époque, il y avait deux bacs.
Ouais.
Et après, il y avait une année qui s'appelait propédeutique, et là, il fallait refaire du latin, de l'anglais, etc. Excusez-moi pour l'anglais, parce que j'étais absolument nulle. Moi, maintenant, c'est les Singapouriens qui m'ont appris à parler anglais. Et donc, je... Oui, et donc...
Comment vous êtes formé à la photographie, c'est-à-dire ?
Alors, donc...
ça a l'air difficile.
Oui, ça a l'air difficile, oui. Donc, du coup, oui, propédeutique, où il fallait refaire de l'anglais, hein, du latin, etc., j'ai dit non. Et j'avais assez le sentiment de faire l'IDEC à l'époque. Mais le concours était très difficile parce qu'il est très littéraire. Donc, je n'étais pas très littéraire. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et puis, avec des amis, je le dis, tous les week-ends, j'allais faire des photos, etc. Et petit à petit, ça a été très douloureux pour moi d'avoir un appareil photo sur la poitrine et de m'avancer, de faire des photos des gens. Maintenant, je photographie beaucoup les gens. Mais c'est pour ça qu'au début, je photographiais l'architecture. Et donc, après, à l'époque, pour trouver du boulot en photo, soit la Sistana, donc j'étais une femme, donc un nom dont vous ne pouvez pas porter les flashs et tout ça. Donc, et puis, on ne paye pas. Bon, c'est en train de redevenir comme ça.
Exactement la même chose.
Ouais. Exactement la même chose. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui me reste? Les laboratoires. Donc, j'ai travaillé dans les laboratoires photo, dans le noir et tout.
Un univers carcéral.
Carcéral, je n'étais pas faite pour ça, quoi. Franchement, je ne suis pas faite pour ça.
Le rendez-vous.
Il est 1h du matin. Tout est assez calme. Il y a des chars comme ça qui sont positionnés. On entend quelques tirs. Vous allez voir, on va commencer. Là, il tire. Là, il y a des snipers qui sont planqués. On ne sait pas où.
Et là, on est quand?
Le jour de Noël. C'est une jeune femme qui vient prier. Elle a perdu un de ses fils. C'est une des petites églises que Ceausescu n'a pas démolie.
Plateau espion avec vous, Patrick McGuinness, écrivain, poète, professeur de littérature française et de littérature comparée à Oxford. Vous avez signé une anthologie de poésie symboliste et décadente et plusieurs recueils de poésie, on y reviendra. Et vous publiez votre premier roman, Les 100 derniers jours, traduit par Karine Lallecher chez Grasset, l'histoire d'un jeune professeur d'anglais qui part enseigner en Roumanie 100 jours avant la chute de Ceausescu, 100 jours avant donc Noël 89. C'est un roman d'espionnage, une plongée dans la misère, la corruption de Bucarest, une ville pourrie, le mot est écrit, qui vit au rythme d'un régime totalitaire déjà vacillant. Vous-même, vous avez vécu en Roumanie, à Bucarest, dans les années 80. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes retrouvé là-bas à ce moment critique?
Eh bien, j'avais un drôle de boulot. J'enseignais l'anglais à la communauté diplomatique, surtout aux Français d'ailleurs. Il y avait une école française, le lycée français à Bucarest, et je faisais des cours d'anglais. Alors j'ai rencontré beaucoup de diplomates, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Belges. Et je me suis aussi inscrit, comme on le pouvait à l'époque, à l'université à Bucarest pour aller assister aux séminaires et aux conférences. Et c'était avant d'aller à l'université. Et j'ai raté la révolution d'environ un an, en fait. Et si j'avais été présent pour témoigner de tout ça, j'aurais sans doute pas écrit mon livre. En fait, le livre existe pour remplacer une réalité qui n'a malheureusement pas eu lieu pour moi. J'ai vu ça à la TV, à la radio.
Parmi tous les pays que vous avez visités enfant, hein, parce qu'enfant vous avez traversé le Congo, la Belgique, le Venezuela, l'Iran entre autres, qu'est-ce qui vous avait attiré à ce point en Roumanie pour que vous y retourniez à 21 ans? En quoi ce pays a participé de votre construction, Patrick McGuinness?
Eh bien, d'abord, j'avais l'âge où je commençais à comprendre le monde sans vraiment pouvoir le contrôler. Je ne sais toujours pas le contrôler, je le comprends peut-être encore moins maintenant que je le comprenais à l'époque. Et à Bucarest, c'était une ville très spécial. Comme vous savez, la Roumanie est un pays très, très francophile, très francophone aussi. Il y avait à l'époque une génération entière de personnes âgées qui parlaient un français vraiment impeccable, grammaticalement, et qui connaissaient à fond la culture française. La ville était très, très belle, très attirante. C'est-à-dire, c'était comme un mélange de Paris et Istanbul, le côté occident, le côté orientale. Et une des choses, d'ailleurs, c'est pour ça que ça, c'est une espèce de coïncidence que je sois là en train d'écouter Françoise, parce qu'une des choses qui m'a décidé d'écrire le roman, c'était un album de photos du vieux Bucarest. Et quand j'étais là, Ceausescu, comme on sait, était en train de détruire la vieille ville. Et ça se faisait ça se faisait extrêmement vite. On pouvait littéralement passer une maison ou une église et 2 ou 3 jours plus tard, elle n'était plus là. Et j'avais acheté chez un antiquaire à Bucarest un album de photos. Et je voyais déjà que la plupart des bâtiments dans l'album n'existaient plus. Et j'avais l'impression de visiter une espèce de cimetière visuel d'une ville qui était en train de s'écrouler autour de moi. Et je me suis dit poétiquement, parce que pour commencer, je n'avais aucune idée d'exprimer ça en roman. Je voulais le faire en poésie. Et je me suis dit, un de ces jours, je vais écrire quelque chose sur Bucarest, sur la ville surtout. Comme si la ville avait même plus de personnalité, de caractère que les êtres humains.
Donc une sorte de double réparation. Oui. François Huguier, la Roumanie, ça vous a tenté dans votre parcours ?
Mais j'ai failli y aller parce qu'à un moment, Nova avait, quand il y a eu les événements, ils ont monté Nova en Roumanie au moment des événements. Donc c'est vrai que ça m'a tenté. Cette espèce de fin de règne comme ça, moi j'aime bien, moi. J'aime bien ces fins de règne. Quand vous parlez de l'esthétique de la pourriture, moi aussi j'aime bien ça, quoi. Mais pas que les pauvres. Mais c'était... Vous parliez d'Istanbul, là je reviens d'Istanbul. Et Istanbul, ils sont en train de détruire énormément.
Lucille Comeau.
Patrick McGuinness, votre dernier recueil de poèmes s'appelait Jilted City, Cité trahie. Il était déjà question de ville. Qu'est-ce que ce premier roman, dans son écriture, doit à votre poésie ?
Beaucoup. Je n'aurais jamais osé écrire un roman sans avoir tenté la poésie d'abord. Oui. Et j'ai toujours été... Je me considère personnellement comme un type assez... qui est plutôt de bonne humeur, mais je me rends compte que tout ce que j'ai écrit, c'est assez déprimant. Et je sais pourquoi, c'est parce que je suis fasciné par les fins, par la pourriture, oui, mais aussi les fins de tout, les fins de régime, les fins de relations, les fins d'amour, les fins d'amitié. Parce que je suppose que c'est le moment le plus délicieux. Ce qui m'intéresse, c'est... J'ai lu ce mot pour la première fois dans le roman de Wismans, à rebours, le faisandé. J'adore ça, l'idée du faisandé.
Pourquoi avoir retardé l'écriture romanesque d'abord par la poésie ? Il y avait une défiance par rapport au roman ou il y avait, je ne sais pas, une sorte de respect par rapport à ce genre, à cette écriture ?
C'était la poésie qui m'attirait et je pensais aussi qu'avec la poésie, je ferais une espèce d'apprentissage des mots. Et... Je ne pensais pas pouvoir raconter une histoire, en fait. Alors, j'ai parlé beaucoup de la Roumanie dans mon premier livre, The Canals of Mars, et dans Jilted City, on voit déjà une fascination on voit déjà que je suis fasciné par les côtés un petit peu délabrés des villes, surtout Bruxelles. Il y a une section de mon livre qui se déroule à Bruxelles et où je parle des gares abandonnées, des gares défuntes, dont il y a beaucoup à Paris aussi. Et je ne sais pas pourquoi ça m'attire.
Emmanuel Tuny, peut-être un commentaire.
Vous écrivez directement en langue française ou
non,
vous êtes traduit ?
Non,
j'ai traduit
d'abord.
La question que je me pose, c'est que cette question, en effet, du passage du poème au roman, est-ce qu'elle n'est pas liée à vous, chez vous, en partie, à ce goût des fins ? Parce qu'en réalité, un roman, c'est la prorogation de fin permanente. Enfin,
oui.
Ou la repousser, n'est-ce pas quand vous...
C'est ça, différer la fin.
On arrive plus vite à la fin d'un poème.
C'est vrai, j'y avais pas pensé. Penser comme ça, mais je crois que vous avez raison.
Un poème, ça serait qu'écrire des fins, en fait.
Voilà. C'est-à-dire, on enquête l'avènement rapide, en quelque sorte.
C'est ça, et l'effet rapide. Et mon roman est déjà trop long, mais ça, c'est parce que je voulais vraiment différer la fin. Je voulais commencer à la fin et finir à la fin de la fin.
Lucille Comeau.
En anglais, on définit votre roman comme un thriller. Ici, on dirait plutôt roman d'espionnage. Est-ce que pour ce passage au roman, il fallait vous inscrire dans un genre particulier ?
Oui. C'était pas consciemment, mais rétrospectivement, je me rends compte que j'ai sans doute été assez influencé par Graham Greene, qui aime aussi le corrompu, aussi, et qui choisit toujours des personnages qui ne sont pas vraiment centrés ni ancrés dans l'histoire même, ni l'histoire majuscule, ni l'histoire du roman. Ils sont toujours un petit peu à un angle assez oblique. Et ça, je trouve très intéressant. Parce qu'en fait, si on ne va parler que d'événements historiques, ça peut devenir à la longue assez pelant. Mais si on peut présenter les événements historiques familiers, mais d'un angle nouveau, là, ça devient intéressant. Et j'aime toujours les gens qui sont un petit peu comme les personnages de Flaubert, d'ailleurs. Ils vivent au milieu de l'histoire, mais ils ne s'en aperçoivent pas.
Vous décrivez un quotidien dans le roman extrêmement dur, la privation, l'arbitraire, les disparitions. Il y a notamment un chapitre qui se passe à l'hôpital et dont les descriptions sont difficilement soutenables dans le roman. Et vous racontez dans un entretien, je mets ça en rapport, que lorsque vous êtes rentré en Angleterre, donc après ce séjour en Roumanie, vous faisiez régulièrement ce cauchemar. On vous donnait un plan de la ville, mais ce plan était blanc. Qu'est-ce que ça dit de vous ?
Ah ben, d'abord, c'était exactement ça. Pendant 20 ans, j'ai fait ce rêve que j'essayais de m'orienter à Bucarest, dans une ville que je connaissais, et que d'abord, il n'y avait rien sur le plan, et ensuite, il n'y avait rien autour de moi. Et pendant des années, j'ai pensé que c'était une espèce de traumatisme, mais assez vivifiant quand même, parce que c'était intéressant. Ça m'a fourni beaucoup de matériel pour la poésie et pour mes idées et pour le roman. Mais il y a peut-être quelque chose d'un peu de plus profond. Mais depuis l'apparition du roman, je ne fais plus le rêve. Alors j'attends un nouveau traumatisme, en fait.
C'est amusant cette histoire parce que un des leitmotifs du roman russe et du conte russe, c'est précisément cette idée du plan blanc, c'est-à-dire de l'unité du plan, de l'unité absolue du territoire qui efface le plan. Oui, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la mort blanche, cette histoire de la marche qu'on achève quand on est déjà mort alors qu'on marche toujours, le plan s'effaçant. Mais c'est vraiment un leitmotif. Motif du conte russe.
Lucille.
Patrick McGuinness, vous parliez de Huysmans, vous avez aussi travaillé sur Mallarmé, que vous avez traduit, entre autres, pour Un tombeau d'Anatole, qui est un texte inachevé, avec une langue extrêmement abstraite. Bonnefoy, Yves Bonnefoy, dit que le français est abstrait, et l'anglais est très concret. Comment est-ce que vous traduisez Mallarmé ? En deux mots, ça ne va pas être facile.
Yves Bonnefoy, comme toujours, a raison. Et une des choses qui passe très mal entre le français et l'anglais, quand on traduit, surtout la poésie, mais aussi la philosophie et la pensée généralement, c'est que la langue anglaise, mais aussi les Anglais, les Britanniques, n'admettent pas vraiment le genre d'abstraction que vous aimez manier. C'est-à-dire, on lit un poème français, on s'attend à trouver des grands mots, le vide, présence, absence, des trucs comme ça qu'on trouve partout, chez Valéry, chez Mallarmé, chez Hugo. Mais en anglais, ça ne marche pas. Et c'est quasiment intraduisible. On peut traduire les mots même, mais cette culture qu'on voit dans le côté philosophiquement ambitieux de la poésie française, ça ne passe pas du tout. Il faut ou bien ne pas le lire, ou bien apprendre le français. Et j'ai arrêté de traduire comme ça maintenant, parce que ce n'est pas la peine.
Ou bien opter pour la lecture exclusive de Mao Tse-Tung.
Alors c'est très étrange, comment vous pouvez écrire en anglais ce que je vais lire en français, qui est du domaine de l'abstraction. Dans la Roumanie des années 80, l'ennui était un état extrême. Il n'avait rien de neutre. Il vous étirait, il vous distendait, il s'accrochait à votre journée et la freinait comme des galets raclant contre la coque d'un bateau. Est-ce qu'on est dans la littérature anglaise ou est-ce qu'on est dans une littérature qui regarde du côté de la littérature française, Patrick McGuinness, avec ce début de roman ?
Eh bien, d'abord, la première chose à dire, c'est que la traduction de Karine dès le début est magnifique. Et je pense, j'ai toujours été attiré par ce qui n'était pas là. Et moi, je crois que c'est sans doute plutôt l'influence française que l'influence anglaise. Mais aussi un petit peu une obsession que j'ai avec les sensations, une espèce de synesthésie. C'est un livre plein de sensations, les odeurs, les goûts, le toucher, les textures. Tout ça, ça me vient... sans doute de la littérature française, mais aussi de la littérature, de la poésie, surtout irlandaise, parce que l'Irlande fait partie un petit peu mon père était irlandais. Et j'ai beaucoup lu de Seamus Heaney et tout ça, des gens qui savaient traduire le toucher en mots, en abstraction, sans avoir l'air d'un français mal traduit.
François Huguier, un commentaire ?
Moi, je suis... Mais c'est la page blanche aussi qui m'a intéressée, quoi. La page blanche. Et puis...
Quand vous dites ça, vous avez la voix de Marguerite Duras.
Oh bah non, vous savez qu'elle a toujours refusé que j'aille la photographier.
C'est pas vrai. Pour quelle raison ?
Indochine, sans doute. Elle a toujours refusé, parce qu'à Libé, ils ont demandé plusieurs fois, j'ai jamais pu. Mais la page blanche, puis alors surtout la différence entre l'anglais, ça m'a fasciné ce que vous disiez sur la différence entre l'anglais et le français. Par exemple, pendant très longtemps, la littérature japonaise était traduite en anglais et après en français. Et ça faisait... Et tout d'un coup, on a traduit directement de japonais en français. Et ça a changé beaucoup de choses.
Ça marche mieux ou...
Ça marche mieux.
Ouais.
Excusez-moi, mais ça marche.
Non, non.
Ouais, ça vous a un petit côté japonais tout d'un coup.
Ouais. Non, mais je pensais Ishmael Kadare, on le traduit en anglais d'après la traduction française et non pas directement de l'albanais. Et ça marche mieux, je crois.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Ça marche mieux, surtout en musique, Mathieu Conquet. Session tout de suite avec Emmanuel Tuny.
Emmanuel Tuny qui est aussi écrivain, traducteur et diplomate. Vous avez été en poste à Porto Alegre, à Ekaterinbourg. Vous êtes maintenant directeur d'école à Dunkerque.
Oui, j'ai failli mal tourner, j'ai eu 45 ans d'hésitation et puis tout d'un coup, voilà.
Est-ce que comme Patrick McGuinness, il y a un pays qui vous aura formé, Emmanuel Tuny, musicalement?
Ah, musicalement, j'en ai aucune idée, mais généralement, le Brésil, oui, incontestablement.
Alors, vous publiez votre sixième album, le bien nommé Les Variétés. Pour le résumer rapidement, on va dire une sorte de pop amoureuse où il y a, comme toujours, vos compositions, mais quelques reprises, un Paulo Conte, Julien Clerc, une chanson de George Harrison. Et puis, comme souvent, vos textes croisent ceux de classiques de la littérature. Avant, c'était plutôt la littérature étrangère, Emily Dickinson ou Lewis Carroll. Là, il y a une version du sonnet de La Belle Cordière de Louise Labbé et un poème d'Apollinaire. Apollinaire, vous disiez... difficile, plus difficile que Baudelaire, par exemple.
Non, c'est-à-dire, la difficulté avec Apollinaire, c'est que c'est presque trop facile de le mettre en musique parce que c'est déjà de la chanson. Alors, à quoi bon être tautologique au point d'ajouter à ce qu'Apollinaire présente déjà comme une forme chantée. Voilà, donc l'enjeu était de tenter de faire de la chanson sur ce qui en est déjà. Et ce qui a rendu ça possible sur cette chanson particulière, c'est la rencontre avec Susanna Tissitac, dont la voix était absolument invraisemblable.
Qui est cette fille? Alors, est inconnue.
C'est la fille d'une amie qui a 16 ans et que j'ai croisée alors qu'elle préparait son bac en chantonnant. Et j'ai trouvé cette voix absolument extraordinaire. Enfin, elle chantonnait en révisant ses cols. Et je lui ai proposé de travailler sur un poème pour lequel elle avait du goût. Elle a choisi celui-ci, ça tombait bien, puisque c'est un poème que j'adore. Et puis, elle en a fait cette chanson dont elle a composé la musique, hein, par ailleurs.
Et pour Louise Labbé, comment ça s'est passé?
Alors, Louise Labbé, à l'origine, les variétés, ça devait être un disque qui, uniquement composé à partir de textes de Louise Labbé. C'était une de ces idées brillantes que j'ai un matin et dont je me dépare assez rapidement la douche passée. Et voilà, mais j'ai quand même gardé un signe de cette intention initiale que j'avais abandonnée avec ardeur.
Ah, on a parlé de photos, je ne peux pas éviter de parler des photos magnifiques, hein, qui illustrent l'album signé Chloé Buet-Delorme. En couverture, on voit une jeune femme nue.
Remarquable, voilà. Oui.
Une jeune femme nue sur un cheval ou un poney, j'arrive pas à voir.
Un cheval, un poney, ça tout de suite.
Mais il a l'air très bas comme cheval.
Non, oui, parce que vous manquez d'ambition. Mais pour le prochain, on fera l'inverse.
C'est-à-dire Ah oui, d'accord. Non, pas c'est-à-dire. J'ai compris.
Non. Comment vous tombez sur le travail de cette photographe?
Alors, il se trouve que Chloé Buet-Delorme est étudiante dans l'école que je dirige.
Ah, c'est votre statut.
Au cours d'un accrochage de travaux d'étudiants, j'ai remarqué cette photo dont je me suis dit ça ferait une pochette d'album tout à fait consommable. Voilà. Et comme dit De Gaulle, j'en fis une pochette d'album.
Et une question très rapide, l'album...
Vous ne réagissez pas à ce qu'il vient d'être dit, Mathieu Conquet.
Vous vous foutez de De Gaulle, en soi.
C'est pas parce que j'adore Mauriac que je dois défendre De Gaulle à tout prix. Hein. L'album est dédié à...
Vous lisez Yves Jégo. Est-ce que vous lisez Yves Jégo suffisamment?
Peut-être pas assez.
Non.
L'album est dédié à Nadejda Tolokonikova, une des membres des Pussy Riot, comme un salut du cœur, de l'âme, de leur colère. Ouais. Vous l'avez rencontrée?
Oui, je ne l'ai pas rencontrée directement, mais je connaissais le travail des Pussy Riot, parce que j'ai travaillé en Russie, comme vous le savez. Et je suis évidemment depuis aujourd'hui 4 ou 5 ans, tout à fait terrorisé, épouvanté par la situation russe interne et d'expansion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis devenu directeur d'école d'art. J'ai quitté la Russie, j'ai démissionné du poste qui était le mien, parce que c'était tout à fait intolérable. Enfin, y représenter la France me semblait tout à fait inadmissible. Voilà.
Je vous laisse démissionner de ce micro-là pour aller en trouver un autre.
Il a vraiment le sens de la transition, c'est un professionnel.
Ouais, ça.
C'est un type, tous les matins, il la matinale.
Ceci dit, relisez Edgar Quinet.
je crois Yves Jégo, vous avez bien changé.
Peu importe.
Vous retrouvez le Lady Goubayas Band, c'est Kika qui est au cœur, Christophe Boissière au violoncelle, Fred Wolf est à l'orgue et Valentin à la guitare. Et c'est L'Appartenance, un morceau dédié à Diane M. En direct sur France Culture.
Ukrainien libre. Toi que je connais si peu, de moi que je connais si mal. S'il fallait, je dirais si peu, je le dirais si mal. De nous je sais le jour, les saisons voler au temps lourd. Pour en faire les saisons de plus d'une vie vécue. Je vois son secret qui balance sur mon rivage, sur ma ligne. Pardonnez-moi, mais j'y vois comme un signe d'appartenance. Mon secret qui chavire dans son sillage sur sa ligne. Pardonnez-moi, mais j'y vois comme un signe d'appartenance. De toi que je connais si mal, de moi que je connais si peu. Je dirais jamais bien mieux que trois choses banales. Le pas qui vient, la main qui pose et qui repose, la force et la douceur du lien, et pas autre chose. Son secret qui balance sur mon rivage ou sur ma ligne. Pardonnez-moi, mais j'y vois comme un signe d'appartenance. Je vois mon secret qui chavire dans son sillage sur sa ligne. Pardonnez-moi, mais j'y vois comme un signe d'appartenance. De toi que je connais si peu, de moi que je connais si mal. S'il fallait, je dirais si mal, le peu que je sais de.
Emmanuel Tuny et ses musiciens en direct sur France Culture, vous pourrez les entendre, ils seront en concert mardi 3 juin à Paris aux Trois Baudets. L'album Les Variétés est paru sous le label Rue Stendhal avec cette pochette magnifique.
Il dit qu'à partir du moment où on sait à l'avance qu'on veut savoir, on finit par ne pas savoir grand-chose.
Elle dit...
Tout le monde a la trouille. Tout le monde a peur.
Merci à nos invités. Françoise Huguier, au doigt et à l'œil, autoportrait d'une photographe, c'est aux éditions Sabine Vespizer. Et je signale votre exposition Pince-moi, je rêve. Ça s'ouvrira à la MEP à Paris le 4 juin et ça se poursuivra jusqu'au 31 août. Patrick McGuinness, les 100 derniers jours, est disponible aux éditions Grasset. Ça,
C'était pour aujourd'hui, mais demain. Hell is
chilly, motherfucker. Transférons les fonds depuis notre holding sibérienne. Pour la CIA, un dictateur de plus ou de moins du moment qu'ils y trouvent leur compte. Happy Temple. They're confidemus.
Ce sera étrange, demain nous serons en direct et en public au Palais de Tokyo à Paris avec Mathieu Amalric, l'auteur Johan Tomrel, et la session musicale, Mathieu Conquet, ce sera
Mickey Blanco.
Et c'est quoi Mickey Blanco?
Venez de l'entendre.
C'est-à-dire?
C'est un super chanteur.
Parfait. Les annonces, Lola.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Benoît Lagane, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Lucie Como, Claire Maillot et Lola Itéanu. À la prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige et Kevin Labarce, réalisation Thomas Beau.
Il avait le sourire dans la voix, c'est un sans faute encore une fois. Il est 19h53. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Et ce soir, c'est Bulogier. Elle lit Hervé Guibert, enfin un livre d'Hervé Guibert. Bonne soirée à tous.